cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 23 avril 1986.
Je prends tout de suite ces deux questions posées. Quand le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », ne reprend-il pas les trois amours, choix, intention de vie et amour? Je dirais que c'est pas le Christ qui reprend ça, mais c'est plutôt nous qui cherchons et découvrons de fait une structure fondamentale de la vie humaine. Jésus, étant Dieu et homme, connaît parfaitement l'éthique, la métaphysique. Primo cadit in intellectu, dans l'intelligence du Christ, est. Faut pas l'oublier. Ces rencontres ou ces parallélismes pas l'amour, vous ne pouvez pas comprendre cette parole de Jésus. Alors dire, oh, il a dit ça, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ah, oui, oui, c'est poétique. Mais le chemin, c'est évident, il a dit ça, mais il était sur le chemin, je suis le chemin. Je suis la vérité, Jésus. Je suis la vie. On ne verrait pas la force d'une parole comme celle-là. Ça nous aide, mais c'est ça la théologie, c'est de mettre au service de la foi, toute la structure de notre intelligence qui découvre l'homme. Alors à ce point-là, c'est très important. Il y a une éthique dans l'évangile. Et il y a plus qu'une éthique. Il y a une vie. Mais il y a une éthique. La grâce ne supprime pas la nature. Et la grâce ne supprimant pas la nature, Jésus se sert de toute la structure profonde de notre intelligence et de notre cœur pour nous apprendre à aimer. Autre question. Le choix impliquant un ordre de préférence. Ne pouvons-nous pas par là comparer l'amour? C'est-à-dire introduire dans l'amour une comparaison. Je présume que c'est ça que ça veut dire. Seul le choix par rapport à Dieu, la fin ultime, n'impliquera aucune comparaison. Quod nos oui. Je verrai deux sentiers. Un où je peux faire fortune. Donne-moi ton âme, je te donnerai tout l'empire du monde. La tentation du démon, elle existe toujours. Je te donnerai tout. Objectivement parlant, oui. La comparaison est sûre. et c'est parce que la comparaison se réintroduit tout le temps que vous pouvez arriver à relativiser l'amour. Et c'est parce que la comparaison s'introduit tout le temps que vous pouvez être tenté de jalousie. L'amour a la place d'être ce qui vous béatifie, vous met dans la dualité. Vous êtes jaloux. Un œil d'un côté, l'autre œil de l'autre côté, alors que normalement les deux yeux sont faits pour voir le même objet dans son relief. Et quand vous êtes jaloux, un œil d'un côté, l'autre œil, vous supprimez le relief. Et vous réintroduisez à l'intérieur de l'amour, qui est qualitatif, la quantité. Et vous détruisez l'amour. C'est en ce sens-là que la jalousie détruit l'amour. Donc il y a comparaison et comparaison. Comparaison du côté subjectif, c'est bien évident. Tout joie implique ça. Et puisque le joie peut regarder l'absolu, subjectif, il peut y avoir une comparaison, mais du côté objectif, non. Parce que quand je choisis Dieu comme fin, je ne veux plus le comparer. Je le considère comme celui qui prend tout. Donc comme celui qui me finalise. Nous avons essayé de comprendre le essayer de vous montrer que le choix pouvait porter sur un moyen très contingent. Et le choix peut porter sur l'absolu. Le choix a donc une extension très grande. L'amour porte sur le bien. L'intention de vie porte sur la fin. Le choix porte sur la fin et les moyens. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est apporté dans le point de vue du choix. Et ce quelque chose de nouveau réclame une phase que j'ai très peu traitée. C'est pour ça que j'y reviens dessus. Le conseil. Et c'est très important de voir que dès qu'il y a choix, il y a possibilité d'un conseil. Alors, qu'est-ce que c'est que le conseil comme acte humain? On dirait aujourd'hui information. Je m'informe. Avant de choisir d'une façon absolue, informez-vous sur la question. Quand vous faites un contrat et que vous dites oui, informez-vous. Sachez si cette le prix qu'on vous présente, ça c'est l'information, vous voyez. C'est plus notre cœur, c'est la prudence qui veut savoir. Alors on s'informe, on demande conseil, étant donné qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas, on risque toujours d'être naïf. On est naïf quand on aime. Bienheureuse naïveté. Mais pour l'intelligence, c'est pas suffisant. Or, dans le domaine du conseil, dans le domaine du choix, il faut le conseil, il faut l'information. Mais il faut bien regarder que l'information et le conseil, c'est une phase de l'intelligence pratique. C'est là où la comparaison joue. À fond, je compare. J'essaie de comprendre. J'essaie de voir l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Une œuvre d'art, ça n'a pas de prix. Une œuvre d'art fait partie du commerce, pas en tant qu'œuvre d'art. En tant que je regarde les amateurs, alors c'est le marché. C'est très intéressant la question du marché. Et ça intervient dans le choix. C'est évident qu'il y a des moments où les fraises coûtent plus cher et des moments où elles coûtent moins cher. Quand on est un bon procureur, on les achète quand sont naïfs quand il s'agit de questions d'argent, parce qu'ils ne l'ont pas gagné. Alors on ne sait pas ce que ça représente. On est toujours un tout petit peu comme Marie, la sœur de Lazare. On a gardé un parfum. Mais Marie savait très bien que c'était très coûteux. Et les religieux gardent certaines choses et puis ne s'aperçoivent pas. Ça leur a été donné. Alors, très bien. Il faut savoir les domaines dans lesquels on est naïf. Et les domaines dans lesquels on ne l'est pas. Parce qu'on a fait sa petite enquête. Et les domaines dans lesquels naïf. Et il faut toujours garder dans son cœur une part de naïveté. À moins d'être un commerçant dans votre personnalité. Alors vous devenez, c'est le commerçant qui étouffe la personne. C'est très curieux que la face du conseil vous fait toucher tout ce que représente l'information. Un monde qui ne devient plus qu'un monde d'information devient un monde économique, jusque dans l'ordre de l'amour. Cette personne vaut. Attentif à la communauté, est attentif à ce qu'on peut l'aspect communautaire. Mais il faut bien saisir où naît le conseil. Il naît pour le choix et pour le moyen, en tant que moyen concrétise, incarne l'amour, jusque dans son ultime précision et individualité. Le conseil, qu'est-ce que c'est ? L'information au plan éthique. Je ne prends pas un point de vue commercial, mais c'est une application. Le commerce n'est pas artistique. Vous voyez, les artistes et un commerçant, c'est toujours extrêmement joli à voir. L'artiste et le commerçant, c'est tout à fait autre chose, c'est pas du tout le même langage. Alors le commerce, où est-ce qu'il se situe ? Il ne se situe pas dans la ligne du fat géré. Il ne se situe pas dans la ligne de l'adgéré. C'est le point de vue politique. C'est le point de vue des circonstances particulières dans lesquelles vous êtes. Le marché, le commerce, c'est à ce niveau-là. Tandis que le conseil est au niveau du choix des moyens. Qu'il s'agit de petits moyens. Savoir ce qu'il faut acheter pour le repas de midi. Il faut quand même exercer un choix. Je vous ai dit tout à l'heure, si on n'est pas du tout informé, on écoute ce que au marché on dit. Voilà quelque chose de tout à fait nouveau, on s'y précipite. Au contraire, si on est économe, on se dit, laissons passer tous les autres devant. On ramasse ce qui ne se vend pas. Et comme ça, on l'a à très bon prix. Alors, c'est le point de vue économique. C'est pas le choix artistique. C'est pas le choix éthique. C'est le point de vue économique qui prime. C'est vrai, quand on est des pauvres, c'est ce point de vue-là qui prime. Sauf quand il y a alors un mécène qui passe devant. Pour une fois, je voudrais que puisse avoir à la table de sa joie d'art des choses qui sont de qualité. Alors là, c'est le mécène qui passe. Mais c'est plus le point de vue économique. C'est un choix. Il faut réfléchir de temps en temps au menu des repas pour découvrir le choix qui a été avant. Pour comprendre ce que c'est que choisir, qu'est-ce que c'est que le conseil. Puis alors on dit, ah là, il y a manqué d'informations. Et alors, on le dit à celui qui est responsable, il a manqué d'informations, il s'est précipité trop vite. Le choix, au point de vue éthique, porte sur le moyen qu'on choisit. Le moyen en vue de la fin. Et pour que ce choix puisse se faire correctement, il faut la phase du conseil. Et la phase du conseil fait qu'on demande aux autres leur avis. Et la phase du conseil implique une réflexion. On s'arrête. C'est toujours très long le conseil. Toujours très long. Il ne faut pas que ce soit trop long. Parce que si on est scrupuleux, on demeure dans le conseil. Je n'ai pas encore une information suffisamment complète. Un espace, j'ai pas encore une information suffisamment. Dans l'ordre de l'information, c'est infini. Parce que vous avez l'Amérique, vous avez les Soviets, vous avez tous les marchés, c'est infini. Donc il faut arrêter à un moment donné. Il faut trouver que c'est suffisant. La phase du conseil, elle est lente. Essaye de voir toutes les possibilités. C'est au niveau du conseil, regarde, impossible, qui est ordonné à la fin. C'est pas n'importe quel possible. Vous voyez, c'est très curieux. Nous avions déjà vu, à propos de l'inspiration, que l'inspiration porte sur le possible. Et le conseil porte sur le possible. C'est pas du tout le même possible. Et c'est ça qui est très important.
L'autre peut intervenir.
vous allez prendre conseil, moi, je vais prendre conseil auprès de mes saints. En réalité, il se met à prier et elle réfléchissait pour laisser la lumière surnaturelle intervenir. Bon, sans aller jusque Jeanne d'Arc, je me dis, vous, vous allez prendre conseil ensemble. Moi, j'ai lieu de réfléchir seul. Ça me donne beaucoup plus d'idées de réfléchir seul que d'entendre les autres parler. Parce que quand j'entends les autres parler en donnant des tas de choses imaginatives, ça me met dans un état d'inhibition. Je ne sais plus rien du tout. Je peux que répéter les autres. Tandis que si je me mets à réfléchir, alors à ce moment-là, je vois toutes les possibilités. Vous voyez, il y a deux sources au conseil. Il y a deux sources. Il y a l'apport extérieur et puis il y a l'apport intérieur. Et chacun d'entre nous, on est plus ou moins sensible à l'apport extérieur ou à l'apport intérieur. Et on doit être attentif à ça. On doit savoir qu'on a un tempérament plus méditatif. Et que pour nous, prendre conseil, c'est prier. Pour nous, prendre conseil, c'est réfléchir. Pour nous, prendre conseil, c'est se réfugier auprès d'un ami. Dis-moi un tout petit peu, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tandis qu'au contraire, d'autres, prendre conseil, c'est démocratiquement prendre quelques chefs de file qu'on rassemble et puis qu'on dit, allez, on va délibérer là-dessus. Vous voyez, c'est très curieux. Hein. Et là, c'est très intéressant. Je crois que le conseil prend là deux physionomies tout à fait différentes. Quand il s'agit de décision personnelle et quand il s'agit de décisions politiques communautaires, quand il s'agit de décisions personnelles, ordinairement il vaut mieux pas demander conseil à d'autres personnes et demander conseil à des amis et puis réfléchir et prier. Quand il s'agit d'un conseil au niveau communautaire, donc au niveau politique, il faut être attentif aux autres qui sont représentatifs de la communauté, pas nécessairement ceux qui ont la plus grosse gueule, mais ceux qui sont pleinement engagés. Les petites fourmis, pas les hippopotames, parce qu'il y a toujours des hippopotames qui murmurent dans leur baignoire, toujours, puis il y a une petite fourmi. C'est très important de savoir demander conseil. Vous voyez, l'art de gouverner, je dis bien l'art de gouverner, très souvent repose sur l'art de demander conseil. Parce que vous aurez une délibération totalement différente si vous demandez aux fourmis, aux hippopotames. C'est tout à fait différent. Les hippopotames sont très très contents qu'on leur demande conseil. Les petites fourmis sont très étonnées. C'est intéressant de voir ça. Et ordinairement, c'est quand vous demandez conseil à quelqu'un qui est très étonné. Vous lui demandez conseil, mais moi je suis dans mon trou. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous trompez complètement. C'est ordinairement ceux-là qui donnent les meilleurs conseils. Tandis que les gros hippopotames, ils ont leurs clichés. Leur a priori, parce que je crois que c'est un animal a priori, l'hippopotame, parce que par définition, il murmure tout le temps, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit gris, que ce soit aucune espèce importante, il murmure. Alors, il ne peut pas donner conseil, ou il donnera conseil toujours en cette contrainte par rapport à ce qu'il se fait. C'est très important la phase de conseil, il faut y réfléchir sur la phase de conseil. Nous avons tous ces expériences en ce domaine-là. On nous a tous demandé conseil. Alors qu'est-ce que ça représente comme acte ? Le conseil, c'est un acte de l'intelligence pratique, c'est-à-dire d'une intelligence finalisée. Vous pouvez donner conseil à quelqu'un que si vous êtes finalisé. C'est pour ça que dans certains domaines, vous devez dire « je ne peux pas vous donner conseil ». disais, vous cherchez la fin, le bonheur, la vie divine. Comment voulez-vous qu'un prêtre puisse donner conseil à quelqu'un, à un contemplatif, si lui-même ne sait absolument rien de ce que c'est que la contemplation ? C'est d'un genre de vie à l'autre genre de vie. Or, si la contemplation implique ça, c'est pour ça qu'on dit dans la règle qu'il ne faut pas demander conseil à ceux qui ignorent complètement le genre de vie qu'on mène. Donc, pour donner conseil, il faut une intelligence pratique finalisée. Il faut une intelligence pratique en même temps qui est une grande expérience. L'homme de conseil, c'est un homme d'expérience. Ça ne s'invente pas. Il faut du temps. Parce qu'il faut avoir vu beaucoup de choses au point de vue de l'expérience. Ça ne peut pas s'en placer. De saisir des situations multiples et diverses. Donc, c'est les deux grandes qualités. L'homme de conseil, celui qui est finalisé, celui qui a une grande expérience. Parce que le conseil relève de l'intelligence pratique. D'autre part, il faut comprendre que le conseil, comme on dit de temps en temps, je vous donne un conseil très objectif. Le conseil n'est jamais objectif. Il est toujours subjectif. Pourquoi ? Parce qu'il réclame que mon intelligence soit finalisée. Mais il doit être intelligent. C'est en ce sens-là qu'il doit être objectif. Il doit être intelligent. C'est une objectivité à l'intérieur d'une subjectivité. La subjectivité de celui qui est engagé, complètement engagé, et qui prend suffisamment de recul. Autrement dit, le conseil doit émerger au-delà des passions. Quand vous êtes plongé dans les passions, vous ne pouvez pas donner conseil. Il faut être suffisamment au-delà de la passion pour comprendre ce que représente ce domaine passionnel et ce que représente l'intelligence pratique. Sert des passions, mais qui n'est pas au service des passions, qui les domine, qui les dépasse. C'est propre de cette intelligence pratique, oui, qui implique les passions. Je ne peux pas donner conseil si je ne sais pas ce que c'est que les passions humaines. Je ne peux pas donner conseil si je ne suis pas finalisé. Donc c'est une situation difficile. Le bon conseiller, c'est rare. Il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit qu'il ait dépassé les passions. Parce que s'il est entièrement engagé dans les passions, il ne pourra pas. Il sera aveuglé. Quand on est passionné, on est aveuglé. Et donc on ne voit plus. Voilà le point, je crois, très important du conseil. Parce qu'au fond, la vocation du contemplatif, ce sera l'homme de conseil. Et le starès, c'est le contemplatif. Et il faut savoir cela et le comprendre. Le conseil est donc une phase importante par rapport au choix. Alors, quelle différence y a-t-il entre conseil et choix ? Le choix ne peut que... Je veux dire, le conseil ne peut que disposer au choix. Le conseil ne détermine pas le choix. Il ne fait que disposer. C'est pour ça que celui qui donne conseil dit toujours, mais vous ferez ce qui vous semble mieux. Et on doit toujours dire ça, surtout si on exerce une certaine autorité, un certain ascendant sur celui à qui on donne conseil. On dit, mais vous verrez. Je vous dis ça, mais c'est vous qui devez décider. Et personne ne peut décider sans vous. Donc, le conseil, un autre peut vous donner conseil, mais pas le choix. Et un autre peut vous donner conseil, parce que le conseil est de l'ordre intellectuel. Et l'intelligence est toujours universelle. Elle a toujours un certain mode universel. Et c'est pour ça qu'un autre peut vous donner conseil. Tandis que personne d'autre ne peut choisir pour vous. Sauf si vous êtes en face d'un malade, ou d'un enfant, ou d'un scrupuleux. Alors, vous décidez pour lui. Je choisis pour toi et il marche. Parce qu'autrement, il ne choisira jamais. Il sera comme l'âne de Buridan. Il restera devant deux bottes de paille et puis il mourra. Ça arrive. Les intellectuels ont beaucoup de peine de choisir. Ils sont merveilleux au stade du conseil parce qu'ils ont une imagination d'une fertilité prodigieuse. Mais ils n'arrivent jamais à choisir parce que justement le conseil, je veux dire l'élection, c'est le dépassement de l'intelligence par l'amour. Et il y a toujours dans tout choix quelque chose d'irréductible par rapport au conseil. Il y a un engagement dans le choix. On s'engage. On s'engage, on choisit. Donc c'est un acte volontaire. Tandis que le conseil est un acte intellectuel. On demeure encore, si vous voulez, dans une certaine objectivité dans le conseil. Tandis qu'au contraire, le choix implique nécessairement un engagement. C'est même un engagement très fort. Un engagement qui prend toute l'attention de vie et qui prend tout le point de vue premier de l'amour. Il faut comprendre que dans cette phase d'élection et de choix, le conseil joue le rôle de disposition, mais ne détermine pas. Qu'est-ce qui détermine le choix ? Qu'est-ce qui détermine le choix ? Je crois qu'il y a deux éléments qui peuvent déterminer le choix. C'est pour ça que c'est toujours extrêmement révélateur, le choix que quelqu'un fait. Je vous ai déjà dit, quand un jeune homme choisit telle jeune fille pour être sa fiancée, c'est très révélateur. Et l'inverse aussi.